Amis auditeurs, auditrices de FM+, bonjour. Aujourd'hui, nous avons la chance et la joie d'accueillir Michel Dautry. Michel, bonjour.
Bonjour.
Nous allons aborder avec vous un thème particulièrement intéressant et passionnant. Vous êtes président de l'Association des Amis de l'Orgue du Temple de Maglone et nous allons parler de ce projet de création de nouvel orgue. Donc déjà, dans un premier temps, pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez vous présenter et dire qu'est-ce qui vous motive sur ce projet ?
D'abord, merci de m'accueillir dans cette émission. Et me présenter, c'est très simple. Je suis donc le président de cette association qui a été créée en 2009, je crois. Donc nous travaillons avec un comité, avec un conseil d'administration et un bureau. Nous travaillons d'arrache-pied, je peux le dire, depuis des années, pour mettre sur pied ce projet de création d'un orgue dans le temple de la rue de Montpellier. La rue de Maglone à Montpellier.
Et vos motivations pour ce projet? Parce que je crois que vous avez un lourd passé dans ce domaine déjà.
Lourd passé, c'est beaucoup dire, mais en tout cas, la question de l'orgue m'intéresse depuis toujours. À l'âge de 10 ans, j'ai eu d'imprégnation très très forte après avoir entendu un orgue. Et puis toute ma vie, ça m'a habité cette affaire-là. Pendant mes années professionnelles, où j'étais médecin généraliste, j'ai pas eu le temps de m'en occuper comme j'aurais voulu. Mais maintenant, je suis à la retraite, donc je suis disponible. Et après avoir suscité la création d'une association au Vigan, j'ai dirigé la construction d'un orgue dans le temple du Vigan. C'est un orgue qui est maintenant assez connu en France, qui est un orgue excellent, qui a une très belle sonorité, avec lequel l'association que je préside au Vigan a organisé déjà plus de 100 concerts avec les plus grands organistes français connus actuellement, français et étrangers. Voilà. Donc, après cette expérience du Vigan, qui est quand même une expérience, je crois pouvoir dire, réussie, avec quelques amis, on s'est lancé dans le projet de la construction d'un orgue à Montpellier. L'orgue du temple d'Henri de Maglone, comme vous le savez, est en très mauvais état. Il est assez âgé, il a été transformé à plusieurs reprises. Et malgré l'intérêt qu'il peut avoir, parce qu'il possède un certain nombre de tuyaux assez particuliers du 19e, d'un facteur d'orgue qui s'appelait Merklin, il est quand même pratiquement hors d'usage. Alors, le conseil presbytéral est d'accord pour qu'on construise l'orgue neuf dans ce temple qui est par ailleurs monument historique. Il est sur la liste complémentaire des monuments historiques. Il faut donc aussi avoir l'accord de la Direction Générale de la Culture, la DRAC, accord que nous avons eu, de même qu'avec le conseil presbytéral. Donc maintenant, les obstacles qu'on a rencontrés au début sont un peu derrière nous, et on peut avancer dans ce projet de construction d'un orgue neuf. Alors, quel orgue ?
Oui, peut-être que dans un premier temps, un orgue, ça résonne dans l'esprit de beaucoup comme étant un instrument un peu ancien, qui n'aurait plus d'intérêt maintenant. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour convaincre ceux qui penseraient cela, que c'est un instrument de musique qui a toujours, toujours de l'intérêt à être joué, écouté?
Alors, évidemment, quand on interroge les gens sur l'orgue, les gens associent l'orgue aux cérémonies religieuses, catholiques, protestantes. Donc, c'est vrai que l'orgue n'est pas très populaire. Beaucoup de gens que je rencontre me disent « Moi, j'aime la musique, mais j'aime pas l'orgue. » Alors que l'orgue est un instrument de musique absolument extraordinaire qui peut permettre toutes sortes de possibilités, toutes sortes de combinaisons sonores, toutes sortes de puissance ou de légèreté, à la fois pour la poésie, pour la description sonore d'événements particuliers. Bien sûr, il peut servir pour le culte, pour la messe, chez les catholiques, bien sûr. Mais traditionnellement, chez les protestants, l'orgue a une place particulière quand même, parce que le plus souvent, il est géographiquement proche de la chaire, comme s'il y avait une sorte de correspondance entre le prédicateur ou la prédication et la musique que l'orgue peut diffuser. alors que chez les catholiques, l'orgue est à l'entrée, à l'opposé de l'autel. Dans toutes les églises catholiques, c'est comme ça. Donc, à Montpellier, l'orgue sera au-dessus de la chaire, sur la tribune qui est au-dessus de la chaire. Décision qui a été discutée, mais qui a été prise depuis plusieurs années.
Allez-y.
Alors quel orgue ? Évidemment, le projet que nous portons à l'association, c'est celui d'un orgue un peu important. Alors, on dit grand orgue, mais grand orgue, ça fait peur. C'est un orgue, tout simplement, un orgue de 30 jeux, ce qui est peu, parce qu'on a souvent des orgues dans les temples, dans les églises, de 50 jeux, 80 jeux, voire dans certaines églises ou cathédrales, des orgues de 100 jeux ou 110 jeux. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir 50 jeux pour faire de la belle musique d'orgue. Et avec ce qui est prévu ici à Montpellier, qui a été longuement étudié par des spécialistes, avec 30 jeux, on pourra jouer tout le répertoire. Mais, à un accord avec le conseil prébitéral, avec une priorité donnée à la musique de Bach. Bach, c'est le musicien par excellence des protestants, mais pas seulement, mais quand même joué d'une notoriété, d'une réputation très particulière chez les protestants. Donc cet orgue sera prévu pour jouer préférentiellement l'œuvre de Bach, mais aussi la musique du 19e et la musique du 20e, car on écrit beaucoup. On écrit beaucoup pour l'orgue, depuis un siècle, même plus, beaucoup de compositeurs écrivent pour l'orgue. Donc je pense que cet orgue permettra également d'interpréter des pièces de musique contemporaine, ou en tout cas moderne.
Alors je crois que vous avez eu un comité de pilotage qui a étudié les différentes fonctionnalités de cet orgue.
Alors, nous avons fait le choix d'avoir un comité de pilotage. C'est quoi un comité de pilotage ? C'est 3 ou 4 professionnels extérieurs à l'association, extérieurs à la paroisse, extérieurs à Montpellier, ou pas tout à fait, mais presque, qui sont des professionnels qui nous guident, qui nous conseillent et qui nous ouvrent un peu leur horizon et qui nous évite peut-être de nous enfermer dans nos désirs propres de l'association de Montpellier. Donc ça, c'est très important. Et en même temps, sur le plan technique, ils sont là pour nous donner des conseils et nous guider. Ils sont là aussi pour nous aider au moment où nous aurons affaire à un choix de facteur d'orgue, parce que ce choix n'est pas encore fait. Et ça, c'est une procédure un peu compliquée, avec des appels d'offres qu'il faut faire dans les règles. Il faut rester tout à fait dans les règles de la procédure normale pour ce genre de choses.
Et donc, avec ce comité de pilotage, vous avez trouvé un architecte, parce qu'il y a un buffet qui va être aussi prévu. Alors, est-ce que vous pouvez décrire, pour ceux qui ne connaissent pas du tout un orgue, comment ça se présente déjà ?
Alors, l'architecte qu'on a trouvé, c'est avant le comité de pilotage. Il y a à peu près 2 ans, j'ai quand même des connaissances dans ce milieu de l'orgue, j'ai eu connaissance d'un architecte, d'un jeune architecte, absolument remarquable, qui est architecte des PLG, qui construit des maisons, bien sûr, mais qui est lui-même un organiste de grand talent, puisqu'il donne des concerts, et qui s'est spécialisé un peu, à l'intérieur de son travail d'architecte, dans la construction des buffets d'orgue. Alors le buffet, c'est quoi ? Le buffet, c'est la boîte qui contient les tuyaux. Dans l'orgue prévu pour Montpellier, il y aura environ 2000 tuyaux. Ces tuyaux, où est-ce qu'on les met ? Comment on les met, comment on les répartit, comment ils sont alimentés en vent, puisque dans l'air qui passe dans les tuyaux, dans un orgue, ça s'appelle le vent. Comment sont-ils raccordés entre eux au clavier pour que l'organisme puisse jouer sans difficulté. Tout ça, c'est un ensemble de questions extrêmement complexes que petit à petit nous mettons à jour, que nous étudions et que j'espère nous allons pouvoir résoudre du mieux possible. Alors l'architecte, il a précédé le comité de pilotage, il s'appelle Martin Bacot, c'est un Lyonnais, il est architecte à Lyon, mais il a tout à fait été d'accord pour travailler avec nous, et il a mis au point un projet moderne, extrêmement novateur, extrêmement original, avec 4 grandes colonnes. Souvent les orgues sont compactes, c'est-à-dire on voit un ensemble de tuyaux avec une grande façade, plus ou moins belle sur le plan architectural. Il a prévu, pour justement laisser les vitraux du temple visibles et laisser la lumière rentrer dans le temple, il a prévu 4 grandes colonnes qui contiendront les 2000 tuyaux répartis comme il se doit, à droite, à gauche, au milieu, au centre. Voilà. Donc ces 4 colonnes seront disposées sur la tribune au-dessus de la chaire.
Donc ce qui est intéressant pour ceux qui ne connaissent pas trop ce type d'instrument, c'est qu'il y a aussi donc un clavier bien sûr, il y a les tuyaux que l'on tire, et il y a un pédalier, puisqu'il faut arriver à coordonner tout ça.
Il y a 3 claviers, la plupart des orgues ont 2 claviers, 3 c'est déjà plus important, il y a des orgues de 4 et 5 claviers. Ce qui suppose une certaine gymnastique de la part d'organiste. Alors, ces claviers sont de 56 notes ou davantage. Pour nous, ça sera 61 notes, ce qui est tout à fait nouveau, c'est moderne. Les orgues anciens avaient beaucoup moins de touches que ça. Et ces trois claviers, donc, permettent d'avoir accès à des plans sonores très différents. Le grand orgue, avec la plénitude de l'orgue, et puis des jeux séparés qui peuvent se marier entre eux. Il y a des milliers de combinaisons possibles avec ces 3 claviers et le nombre de registres ou de jeux qui sont à la disposition de l'organiste pour jouer toutes les œuvres.
Et il y a un pédalier, ce qui ne rend pas les choses faciles, puisqu'il faut arriver à coordonner les mains, les pieds, le cerveau.
Bien sûr, bien sûr. Les organistes jouent avec les 2 pieds et les 2 mains.
Est-ce que vous pourriez nous dire, en quelques mots juste avant que nous prenions la pause, qu'est-ce qui, dans ce projet, va être nouveau par rapport, vous disiez qu'il est novateur, par rapport à l'orgue ancien, qui n'est donc plus d'actualité pour Maglone actuellement,
oui,
le temple.
Ce qui est essentiellement nouveau dans cet orgue, c'est le buffet.
D'accord.
C'est le buffet qui est vraiment, dans les esquisses dont nous disposons, de Martin Bacot, l'architecte, donne vraiment l'impression de quelque chose de presque jamais vu. Mmh. Parce qu'encore une fois, la plupart des orgues sont construits de telle façon que tous les tuyaux sont rassemblés dans une sorte de boîte dont on ne voit que les tuyaux de façade. La boîte contient des tuyaux à l'intérieur qu'on ne voit pas. Et là, c'est la même chose, sauf qu'il y a 4. Il y aura 4 colonnes séparées les unes des autres. Alors, ça existe déjà, des orgues classiques qui ont 2-3 colonnes séparées, mais ce qu'a prévu Martin Bacot, c'est vraiment une technique architecturale, une esthétique architecturale très moderne. Et c'est pas du jamais vu peut-être, mais c'est vraiment quelque chose de très très nouveau qui vraiment attire l'œil. Toutes les personnes, toutes les personnes auxquelles j'ai montré notre maquette, les esquisses que nous avons données Martin Bacot, sont unanimes à dire que c'est vraiment très beau. Alors, ce n'est pas seulement mon avis à moi, c'est l'avis de la majorité, de la totalité, je peux dire, des gens auxquels j'ai montré ce dossier. Bien sûr, tout le conseil presbytéral l'a vu, et est d'accord, mais tous les gens du conseil d'administration, bien sûr, nous sommes 15 au conseil d'administration qui l'ont vu, tout le monde est d'accord. Je n'ai pas encore vu de réserve, ou encore moins de critiques, bien sûr.
Merci, je vous laisse introduire le moment de pause. Nous allons écouter un morceau, un prélude, je crois.
Alors, oui. Le compositeur de l'orgue, c'est Bach. On joue toujours Bach. Et on jouera toujours Bach. Et je suis d'accord pour qu'on joue encore Bach, qui est vraiment le compositeur absolu de la musique d'orgue. Mais d'autres compositeurs, au 19e, même d'ailleurs au 18e et au 20e, écrivent pour l'orgue, et il y en a beaucoup. Et je crois que c'est important aussi, de temps en temps, d'être attentif à la création contemporaine concernant l'orgue. Alors, j'ai trouvé un morceau de Jean-Pierre Leguet. Jean-Pierre Leguet est un homme qui est maintenant à la retraite, mais qui a été organiste à Notre-Dame de Paris pendant des années, et qui est compositeur après avoir été organiste, et qui a composé différentes pièces très très intéressantes, d'une modernité assez facile à intégrer. Alors j'ai choisi une petite pièce qui dure je crois 2 minutes, qui s'appelle Prélude. Elle est jouée sur l'orgue du temple du Vigan, et elle est jouée par Luc Antonini. Donc, on a enregistré au Vigan un disque il y a quelques années avec, bien sûr, Bach, les musiciens du 18e, du 17e, mais aussi des contemporains, dont cette pièce de Jean-Pierre Le Guay qui s'appelle Prélude.
Merci. Venons d'entendre ce magnifique prélude de Jean-Sébastien Bach, joué par Luc Antonini.
Non, de Jean-Pierre Le Guay.
Jean-Pierre Le Guay.
Oui.
Mais vous avez dit au départ que c'était de Jean-Sébastien Bach, non?
Je crois pas.
Ah bon, il me semblait avoir entendu. Erreur pour moi. Donc, joué par Luc Antonini sur l'orgue du Vigan.
Voilà.
Voilà, et je crois que vous vouliez nous dire quelques mots sur cette œuvre magnifique.
Cette œuvre magnifique, qui peut-être peut paraître un peu choquante pour les oreilles habitué à Bach et à la musique baroque, mais je crois qu'il faut que nos oreilles s'ouvrent à d'autres formes de musique. Il faut laisser la place, je crois, à la création contemporaine, qui est en ce moment actuellement très très riche. On écrit beaucoup pour l'orgue actuellement, et depuis plusieurs années. Alors je pense que c'est intéressant d'ouvrir les oreilles des uns et des autres à cette musique nouvelle. Même si elle peut paraître un peu surprenante au départ.
Toute musique surprenante donne à réfléchir et donne envie d'en écouter d'autres après.
Je l'espère en tout cas.
C'est notre pari. Vous pourriez peut-être maintenant nous dire un petit peu comment, j'allais dire peut-être administrativement, tout cela marche avec le bureau, le conseil d'administration, le conseil presbytéral, le comité de pilotage peut-être. Comment ça s'embranche tout ça?
Alors l'association AOTM, Association des Amis de l'Orgue du Temple de la rue de Maguelone, c'est l'association 1901 qui est autonome. Elle est libre, autonome par rapport au conseil presbytéral et par rapport à la communauté protestante de Montpellier. Bien sûr qu'il y a des points communs, il y a des personnes qui font partie de l'association et du conseil presbytéral ou de la paroisse, mais il est important de noter que c'est une association indépendante. Cette association gère seule le projet de l'orgue de l'orgue de Maguelone, mais en réfère au conseil presbytéral, puisqu'il faut bien savoir quand même que l'église protestante est propriétaire des murs et que nous, association, on propose de construire un orgue dans un bâtiment qui ne nous appartient pas. Donc ça suppose un certain nombre d'ententes, c'est tout à fait essentiel, entre le conseil presbytéral et notre association. Alors, notre association, comme toutes les associations, se comporte un conseil d'administration de 15 membres, qui est assez représentatif de la communauté protestante, puisque statutairement, 6 membres au moins de ce conseil d'administration, ou 7, quelquefois je pense c'est 7 maintenant, puisqu'on est plus nombreux, sont issus d'une liste proposée par le conseil presbytéral. Il y a donc un lien structuré entre le conseil et l'association. et le conseil d'administration de notre association. Et bien sûr, il y a un bureau avec 7 personnes, dont la vice-présidente est Hélène Matra, le vice-président est Daniel Robequin, la secrétaire c'est Linou Créange-Pellegrin, avec une secrétaire adjointe qui est Françoise Fassio, et puis un trésorier qui est Daniel Viblé, et un trésorier, Daniel Viblé est trésorier adjoint, et le trésorier en titre, c'est Paul Schwarch. Voilà, donc c'est une équipe restreinte de 7 personnes avec qui nous travaillons beaucoup, beaucoup pour mener à bien ce projet.
Avec le comité de pilotage, alors, je crois que dans ce comité de pilotage, vous avez des personnalités intéressantes pour justement donner toute une dynamique novatrice à cet orgue.
Le comité de pilotage, donc, il est constitué de 4 personnes. Philippe Lefebvre, qui est actuellement organiste à Notre-Dame de Paris, qui est un des plus grands organistes français actuellement, et qui a aussi une grande connaissance technique de tous les problèmes concernant les créations d'orgues, et qui est président et fondateur d'une grande association qui s'appelle Orgue en France. Tout ce qui concerne l'orgue en France est centralisé dans cette association, et ça c'est très important. Et une des missions que s'est donnée Orgue en France, c'est justement d'aider et de piloter des associations comme la nôtre qui construisent un orgue neuf, parce que nous sommes partis dans cette aventure avec peut-être une certaine naïveté, il faut bien le reconnaître, mais maintenant on est face aux réalités et il faut quand même que des personnes compétentes soient là, non pas pour nous imposer leur volonté, mais pour nous dire leurs sentiments sur notre projet et nous conseiller, bien sûr. Alors, dans ce comité de pilotage, il y a donc Philippe Lefebvre, il y a Luc Antonini, qui est professeur d'orgue à Montpellier, un grand organiste, il y a notre organiste, qui est un ancien organiste du Temple de Passy à Paris, qui est Jean-Claude Reynaud, qui est maintenant est à la retraite, et il y a Martin Bacot, l'architecte. Donc, ce comité de pilotage constitué de ces 4 personnes, encore une fois, ils sont là pour donner un avis, et pas pour imposer le leur. Donc, le travail que nous faisons avec eux est un travail de réflexion commune, où chacun exprime ses choix, et ils sont discutés, comme dans tout projet architectural, on a un projet initial, et puis on est face à des réalités, et puis on adapte le projet aux réalités.
Et quelle est la feuille de route que vous vous êtes donnée alors en tant que...
Alors au point où on en est maintenant, où le projet est vraiment arrêté, on a une esquisse qui est pratiquement terminée, le projet maintenant c'est d'abord de choisir un facteur. Un facteur c'est une entreprise qui va construire l'orgue. En France il y a peu de facteurs d'orgue. Mais il y en a encore quelques-uns parce qu'ils subissent très fortement la crise économique actuelle. Même des grandes entreprises ont dû vraiment fermer. Ça, c'est très grave. Mais enfin bon, nous sommes maintenant en recherche d'un facteur. Pour ça, il faut faire des procédures d'appel d'offres classiques. Donc c'est le premier stade de notre travail actuellement, trouver un facteur. Donc on va faire des propositions à 5 ou 6 facteurs, puis on en choisira 3, et sur 3 on en choisira 1, qui ne sera pas nécessairement le moins cher, bien qu'on tienne compte du prix, mais qui sera le mieux disant, c'est-à-dire qui donnera sa version, son interprétation de la construction de l'orgue, puisque chaque facteur construit un orgue sur mesure. Il y a 12 000 orgues en France, il n'y en a pas 2 exactement semblables.
Au niveau du délai alors ?
Alors le délai, construire un orgue de cette dimension-là, c'est en moyenne un an et demi. C'est-à-dire que le facteur construit l'orgue dans son atelier. Il faut donc qu'il ait un atelier de dimension suffisamment grande pour construire un orgue, parce que le plus grand des tuyaux de l'orgue de Montpellier mesure 5,40 m. Donc 5,40 m, ça suppose des colonnes qui mesurent 6 m, 6,50 m. Donc c'est très grand. Donc le facteur construit l'orgue dans son atelier et après il le démonte et vient le reconstruire dans le lieu où l'orgue doit être installé.
Et pour faire tout ça, vous avez sûrement élaboré un budget. De combien s'évalue-t-il ?
Question centrale. On peut estimer actuellement que le budget toute taxe comprise, mm-hmm. ça c'est très important, est aux environs entre 600 et 700 000 euros. Voilà. Mm-hmm. Alors évidemment, c'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup. Pour l'instant, nous avons de quoi fonctionner, de quoi payer l'architecte, de quoi payer mm-hmm. les premiers frais d'expertise. Il faut aussi expertiser la solidité de la tribune, bien mm-hmm. sûr. Oui. On est en train de le faire. Mm. Mais dans quelques jours, toutes ces questions-là seront réglées et nous devrons partir à la recherche de financement. Comme chacun le sait, il y a beaucoup moins d'argent, de moins en moins d'argent public de mm-hmm. l'État ou des collectivités publiques. Donc notre choix, c'est de faire appel au mécénat.
Mmh.
Alors c'est un travail de longue haleine. On est en train d'y réfléchir et de mettre en route ce qu'il faut pour toucher des mécènes sensibles à la création d'un orgue, parce mmh. que c'est pas toujours facile de trouver. Mais il y a des gens en France qui sont tout à fait capables de donner beaucoup d'argent pour un orgue.
Mmh.
Il faut que je dise aussi que notre association, pour l'instant, est subventionnée par des dons.
Mmh.
Et je suis très, on peut dire, ému de voir que nous recevons des dons de 400 euros, 300 euros, 200 euros, beaucoup de dons, qui nous ont permis, pour l'instant, de financer les travaux préliminaires, c'est-à-dire les honoraires de l'architecte, essentiellement.
Mmh.
Mais ça, c'est une goutte d'eau par rapport au budget futur. Donc, d'ici à peu près, il faudrait qu'en 2018, mmh. la feuille de route, c'est ça, il faudrait qu'en 2018-2019, on ait trouvé la somme voulue. Et à ce moment-là, le facteur peut se mettre au travail.
D'accord. Donc, s'il y a un an, on peut avoir l'orgue pour 2020.
Alors, le temple de la rue de Maguelone aura 150 ans en 2020.
Mmh.
Alors, le pasteur James Woody, mmh. et moi, je suis complètement d'accord, souhaiterait... Et nous aussi.
C'est sûr.
Que l'orgue puisse être inauguré en 2020.
Mmh.
Voilà.
Ce serait un excellent moment historique et plein d'avenir pour pouvoir effectivement le faire à ce moment-là. Donc l'appel est lancé. Si nos auditeurs connaissent des mécènes qui sont intéressés par la musique, la bonne musique et un instrument de qualité, n'hésitez pas à vous faire connaître auprès de Michel Dautry. Je donne le site de cette association à otm.fr, donc en minuscule, je répète, aotm.fr, qui est le site. Et vous nous disiez, hors antenne, que ce site est très bien fait, sur lequel tous ceux qui veulent des renseignements peuvent aller, je crois.
C'est remarquablement fait, je n'y suis pour rien, je n'ai pas ma compétence, mais Hélène Matran en particulier, et puis un technicien aussi, ont réalisé ce site qui, je crois, est très très bien organisé, et qui déjà nous permet de recevoir de l'argent. Donc, dans le site, il y a la possibilité de faire des versements directement par l'intermédiaire du site.
Vous nous disiez que l'un des organistes professeurs au conservatoire fait partie de ce comité de pilotage. Est-ce que cela veut dire ou laisse entendre qu'il va y avoir effectivement des partenariats avec le conservatoire de Montpellier ?
C'est déjà le cas. Un accord a été signé avec le conservatoire. Comme ça se fait d'ailleurs dans toutes les métropoles mmh. où il y a des orgues, dans les églises ou dans les temples, pour que les élèves du conservatoire puissent jouer cet orgue. On ne dit pas jouer à l'orgue, on dit jouer un orgue, on mmh. dit jouer l'orgue. Les élèves pourront venir jouer l'orgue du temple de Montpellier sous la responsabilité de leur professeur, Luc Antonelli bien sûr, selon des dispositions très faciles à mettre en œuvre, avec des conventions qui sont faciles à écrire, mm-hmm. de tel jour, telle heure à telle heure, l'orgue sera à la disposition des élèves du conservatoire. Ce qui ne gênera en rien le déroulement des offices qui peuvent mm-hmm. avoir lieu dans le temple, parce que c'est des heures creuses où il n'y a pas d'office, bien sûr.
Merci beaucoup. Michel, nous vous remercions pour cette émission avec vous et nous espérons que vous êtes nombreux à avoir apprécié toutes ces informations. Je vous rappelle que le temple de la rue de Maguelone est ouvert notamment tous les jeudis de 12h15 à 13h15 pour un culte pause où vous pouvez de manière tout à fait gratuite et anonyme entrer. Et puis vous avez un pasteur, vous avez des personnes qui vous accueillent, vous avez un temps biblique, un temps d'écoute et ça vous permettra peut-être aussi de visualiser l'ordre l'orgue actuel, qui effectivement sera modifié, sera complètement transformé, puisqu'il y aura une création d'un nouvel orgue, pour si possible l'inauguration en 2020. Donc merci beaucoup Michel.
Merci à vous.
Merci à Stéphane qui était à la régie, et à samedi prochain. Au revoir.